Vous écoutez France Culture.
Réplique, le charme romanesque de James Salter avec Frédéric Becbédé et Éric Neuhoff. Il faut être tombé dans une irrémédiable mélancolie pour penser que la chair est triste et pour croire qu'on a lu tous les livres. Le plaisir charnel est une source sans cesse renouvelée d'émerveillement. Quant à la lecture qui ne consiste pas à s'informer sur Internet, elle vous immunise à jamais contre l'ennui. Aussi lettré que vous soyez, la littérature mondiale, comme disait déjà Goethe, est infiniment plus vaste que votre vaste culture, et aussi haut que vous mettiez la barre, tant et tant de chefs-d'œuvre vous restent à découvrir. À défaut d'être moi-même très cultivé, je suis un lecteur insatiable, mais c'est à l'âge canonique de 64 ans que j'ai lu pour la première fois James Salter. Et il m'a tout de suite semblé que cet auteur rare méritait plus de lumière. À l'occasion de la reparution aux éditions de l'Olivier, d'Un bonheur parfait et d'Une vie à brûler, j'ai donc invité deux amateurs fervents, eux-mêmes romanciers, Éric Neuhoff et Frédéric Becbédé. Et je leur proposerai, pour commencer, un petit exercice inspiré de Roland Barthes. Dans la préface de Sainte Fourier Loyola, Barthes écrit: si j'étais écrivain et mort, comme j'aimerais que ma vie se réduisît par les soins d'un biographe amical et désinvolte à quelques détails, à quelques goûts, à quelques inflexions, disons des biographèmes dont la distinction et la mobilité pourraient voyager hors de tout destin et venir toucher, à la façon des atomes épicuriens, quelques corps futurs, promis à la même dispersion. James Salter n'est pas mort, il vient même de publier, à 86 ans, un admirable roman, All That Is. Nous pouvons donc lui rendre, de son vivant, l'hommage amical et désinvolte dont Roland Barthes rêvait. Quel biographème choisiriez-vous dans sa déjà longue existence, Éric Neuhoff?
Je suis content que vous citiez Barthes parce que je suis sûr que Roland Barthes, à la fin de sa vie, rêvait d'écrire un roman comme Un bonheur parfait. Il tendait vers cela. Et s'il fallait choisir un épisode dans la vie de Salter, je prendrais le jour où il a quitté l'armée, après y avoir passé 15 ans, quand il a démissionné après avoir été cadet à West Point et pilote de l'Air Force. Ça a été, dit-il, la décision la plus importante de sa vie. Il avait publié son premier roman sous le pseudonyme de Salter, parce qu'en réalité, il s'appelle James Horowitz. À l'armée, personne ne savait que c'était lui l'auteur. Et il a choisi de se lancer dans le vide, de devenir écrivain au milieu des années 50, alors qu'il aurait pu devenir général.
Général, oui, c'était un très bon pilote.
Très bon pilote, oui. Il raconte d'ailleurs dans Une vie à brûler, la fois où il a abattu un avion ennemi, et c'est un passage fabuleux.
Oui, Frédéric Becbédé, à votre tour.
À mon avis, c'est très important le fait qu'il soit un vétéran de l'armée américaine, de l'armée de l'air. D'abord, il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui savent voler, conduire un avion. Et en plus, pas beaucoup d'écrivains qui ont tué. Donc je dirais que comme biographème, peut-être que c'est justement pas la même chose, mais enfin le fait qu'en 52, à la guerre de Corée, il ait abattu, on sait qu'il en a abattu un, mais il a dû abattre beaucoup plus, évidemment ça en fait, ça explique sans doute sa lucidité, sa générosité, sa compassion et aussi son pessimisme. Toute personne qui a vécu ça, et c'est son point commun avec un de nos auteurs préférés, J.D. Salinger, C'est que quand on a fait la guerre, on ne peut pas écrire...
Alors, il a fait la guerre, mais après la guerre. C'est-à-dire que pendant la guerre, il était encore à West Point. Oui, et donc, il a été pilote de chasse. Mais après 1945, en Corée.
Il a fait la guerre en 52.
Oui.
Il a fait la guerre en 52.
En 52, voilà.
En Corée, oui.
C'est donc pas tout à fait la guerre à laquelle on pense.
Non, non, bien sûr. Il y a une autre, un autre biographème possible, c'est son crash. Puisque quand il avait 20 ans, il s'est écrasé en avion... Il n'avait plus d'essence dans son réservoir et il se demandait où atterrir. Il a confondu une voie ferrée avec une piste d'atterrissage et donc il a atterri dans une maison. Donc, en fait, il est quasiment mort à 20 ans et c'est un survivant. Ça aussi, c'est important, je crois, dans sa manière d'écrire.
Et j'en choisirai un deuxième, puisque j'ai droit.
Eric Nord. Bien sûr. Vous avez tous les droits ici.
Il y a un épisode qui est très, très frappant, qui n'arrive qu'à des écrivains comme lui. Il avait publié un roman qui se passe en France, qui s'appelle Un sport et un passe-temps, un roman très érotique qui racontait une liaison avec une Française. Et le livre n'avait pas marché du tout quand il était sorti en 65, je crois. Et il a été réédité dans une édition prestigieuse en 1995 à New York. Et pour la sortie du livre, l'éditeur a donné un dîner dans un restaurant français de Madison Avenue. Et Salter se dirigeait vers le restaurant, a vu une limousine s'arrêter comme ça devant lui. Et la femme qui en est descendue, c'était l'héroïne du livre qu'il a reconnue 30 ans après. Il ne lui a pas dit bonjour et il n'a raconté à personne ce soir-là qu'il était tombé sur l'héroïne du livre.
Elle allait à cette réception, non ?
Non, non, non.
C'était
je ne leur en ai pas parlé parce qu'il m'aurait dit d'aller la chercher et il n'a pas voulu. Et je trouve que c'est une scène qu'on pourrait trouver dans un de ses livres.
Oui. Arrêtons-nous quand même à ce choix d'existence tout à fait étrange. Il fait West Point. Il fait West Point à la suite de son père.
Ouais.
Et il s'appelle Horowitz, ce qui est quand même assez surprenant. On n'imagine pas Philip Roth, élève à West Point. Il est juif, d'ailleurs il le dit, ça, j'étais dans Une vie à brûler, dans les premiers temps de West Point, il va au service du vendredi soir, avec quelques élèves juifs de sa promotion, et puis très vite, il rejoint la majorité, parce qu'il dit ceci, « Dieu est Dieu, ce qui me distinguait, donc peu importe où on prie, et ce qui me distinguait, une culture tenace aux racines immémoriales que de toute manière je voulais écarter. » Il est vrai que cette question-là, cette appartenance ou cette identité tient une place très marginale, quasi imperceptible dans
mais c'est peut-être
la
dû
vie
au fait,
de James Sutter.
Comme il le raconte dans son autobiographie, c'est qu'il a rencontré très peu d'antisémitisme à West Point.
Mais ce qu'il a rencontré à West Point, c'est quand même une vie extrêmement dure.
Oui.
Il y a un côté full metal jacket dans la description qu'il fait. La vie n'était qu'anxiété, pas de courses et rassemblements précipités. Tout était tradition, le jargon, le drap des lainages, les hauts cols noirs des tenues de sortie, les pantalons blancs à mi-donné que vous enfiliez debout sur une chaise. Vous n'étiez jamais seul, c'est par-dessus tout ce qui constituait cette vie. Il y avait quelque chose de très pénible, de douloureux pour lui à West Point. Et il est quand même allé jusqu'au bout. Pourquoi, à votre avis ? Qu'est-ce que ça signifie ?
Peut-être pour se donner des règles, pour se cadrer dans la vie. Et il compare ça à un orphelinat, là, le camp d'entraînement où il était. Je crois qu'il s'est fait des amis pour le restant de ses jours, là-bas, en plus.
Moi, j'ai l'impression qu'il est... c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'héroïsme. Et qui, même s'il est très mélancolique, et vous dites dans votre titre le charme, et ce charme vient sûrement de sa précision, et ça c'est une précision peut-être militaire. Il y a à la fois le goût de bien nommer les choses, de bien observer les choses, et aussi, comme l'a dit Eric, des valeurs qui sont, je ne sais pas, des valeurs un peu traditionnelles qu'on apprend... dans la discipline rigoureuse de l'armée.
Alors, parmi ces valeurs, il y en a une qu'il revendique, en dépit donc de cette description assez noire de la vie à West Point, c'est l'honneur. Et je trouve qu'il en donne une définition très belle. Il dit « La parole d'un officier ou d'un cadet ne pouvait être mise en doute. On ne trichait pas, on ne mentait jamais. Tout est en ordre, cela voulait dire que quiconque était supposé être là y était vraiment et personne d'autre. Une seule voix répondait pour tous. Absence, présence, toute la routine fonctionnait sur la même base et tout ce qui était écrit ou signé était absolument vrai. » Donc on dit souvent « noblesse oblige » pour l'honneur, mais là, c'est l'honneur, c'est parole oblige. C'est-à-dire, on fait confiance parce que la parole oblige. Et on a le sentiment que cette valeur-là, il y reste très attaché.
Oui, c'est très surprenant, parce que si on compare avec la littérature française contemporaine, il y a assez peu de militaires qui écrivent des romans chez nous, alors qu'aux États-Unis, il y en a énormément. Je veux dire, il y a beaucoup de classiques, je pense au Bal des Maudits d'Irving Shaw.
Était un mentor de Salter, d'ailleurs.
Norman Mailer, bon, Hemingway, bien sûr, qui était quand même qui a fait
Styron,
voilà, John Cheever, Dos Passos. Donc, on citait Salinger précédemment. C'est vrai que c'est comme s'il y avait une sorte de filière militaire dans la littérature américaine. Je ne l'explique pas autrement que par ce que vous avez dit, une exigence, une discipline et en même temps presque un aspect scientifique de l'observation de l'humanité et peut-être aussi très sombre.
Un rapport à la nation qui est un peu différent aussi. Il persiste aujourd'hui un certain patriotisme américain, alors qu'en France, le rejet hypercritique est de mise.
Avec une différence concernant avec James Salter, c'est qu'il est extrêmement francophile. Oui, c'est pour ça peut-être que
il
nous on l'aime.
Il cite Léoto dans la préface à son autobiographie. Pour un Américain, ça doit quand même être assez rare. Mais sans faire de psychanalyse, j'explique peut-être la durée de son séjour sous les drapeaux par le fait qu'il était fils unique. Alors peut-être qu'il a trouvé là une sorte de famille des frères qui lui manquait. Et je vois ça comme ça.
Oui, je suis heureux que vous parliez de sa situation familiale, parce que parmi les plus belles pages, selon moi, d'Une vie à brûler, là où d'ailleurs sa capacité de nommer les choses est à son maximum d'incandescence, c'est quand il parle du père. Il dit des choses extrêmement émouvantes sur son père, donc qui a été lui-même militaire, mais dans la vie civile, si j'ai bien compris, il était promoteur ou agent immobilier. Agent immobilier. Et la guerre le détruisit, je cite Salter, une fois fini, il ne fut plus jamais capable de s'intégrer. C'était le grandiose qui l'attirait, je lis un peu plus loin. Sa manière d'opérer tenait du lyrique, il vivait de louanges et du stimulus qu'il en tirait et ne donnait toute sa mesure que lorsque les pleins feux étaient sur lui. Or, les pleins feux n'étaient plus sur lui, il tombe dans une dépression profonde. Et à ce moment-là, Salter décrit, cite une phrase d'Elman Melville à propos de son propre père, il abandonna la lutte, devint malade mental et mourut. Et c'est ce qui arrive au père de Salter. Nous n'arrivions pas à l'encourager, nous ne pouvions le faire continuer, donc il passait des journées entières couché. Et voici à peu près son épitaphe. Je repense aux visites sans espoir chez les psychiatres, aux électrochocs, aux sorties en voiture sans but à la campagne, rien que pour s'échapper. Je pense à lui marchant dans la rue, préoccupé, le pâle sillage de fumée de cigares après lui, les promenades aveugles pendant lesquelles son esprit ressassait les impossibilités, les retournant une à une, encore et encore. Je trouve que c'est déchirant, le portrait du père.
Et c'est surtout, on voit que c'est un grand styliste, hein, Salter. Ça court pas les rues non plus. Et que son autobiographie est écrite de la même encre que son roman, qu'Un bonheur parfait. Et on voit bien la figure du père et l'importance que joue la famille dans le roman. Le couple, les enfants, la façon dont les couples se déglinguent. Et on parlait tout à l'heure de son sens de l'honneur. Et ce qui est curieux, c'est que dans le roman revient sans cesse l'histoire de grandeur. Le terme grandeur est sans cesse présent. Cet architecte qui estime avoir raté sa vie. Et tout est lié, à mon avis, là aussi.
Oui, c'est le Viry, on va y arriver de suite. Viry, puis d'ailleurs, qui assiste à un moment donné à une pièce d'Ibsen, Solness le constructeur, où évidemment, là, il est question de cela, d'architecture de la grandeur.
Oui, est-ce que peut-être il n'a pas voulu réaliser les rêves de son père? Je pense que c'est souvent le cas avec les écrivains. Et c'est possible qu'il ait justement voulu corriger les erreurs de son père, qu'il avait vu complètement fou et vouloir...
Il a vu s'effondrer.
Voilà, et de vouloir résister. Et Eric a raison de comparer les deux livres. Le livre de mémoire et le roman dont on va parler après, c'est le même projet. C'est-à-dire, le projet, c'est d'archiver le passé. C'est-à-dire d'essayer, par des tout petits souvenirs, des petits détails, des petites observations microscopiques, d'éterniser ce qui est éphémère. Moi, j'ai l'impression que c'est particulièrement saisissant chez Salter, beaucoup plus que chez d'autres auteurs qui racontent leur vie.
Oui, alors, mais juste avant d'arriver au roman, un mot sur l'art de Salter. Vous avez parlé de son pouvoir de nommer les choses, Frédéric Becbédé. Il y a en effet des... on aime, j'ai l'impression, cet auteur, enfin que je découvre, moi, pour la beauté et l'exactitude de ses phrases. Mmh. L'histoire est là, encore que ce soit surtout une succession d'épisodes, plus qu'une intrigue ficelée. Mais à chaque fois, on se dit, mais voilà, c'est ça, il dit les choses. Et là, je voulais citer un auteur qui est pour lui un auteur de prédilection et qu'il cite à la fin d'Une vie à brûler, c'est Isaac Babel. Isaac Babel, dont il dit que c'est le styliste le plus extraordinaire qu'il ait jamais lu, dont il se réclame, enfin, qu'il situe comme une sorte d'idéal littéraire. Et grâce à Salter, j'ai relu des nouvelles de Babel que j'avais oubliées. Notamment, il dit « La première phrase de ma première oie, c'est quelque chose d'extraordinaire. » Voilà. Et on a le sentiment que c'est ça pour lui l'art littéraire. Alors, je voudrais la lire avant d'en arriver à « Un bonheur parfait ». C'est dans « Cavalerie rouge ». « Savitsky, le chef de la 6e division, s'est levé en me voyant et j'ai été étonné par la beauté de son corps de géant. Il s'est levé et le rouge cramoisi de sa culotte de cheval, son calot framboise incliné sur le côté, les décorations épinglées sur sa poitrine, tout cela a coupé l'isba en deux comme un étendard coupe le ciel. Il sentait le parfum et la fraîcheur douceâtre du savon, ses longues jambes ressemblaient à des demoiselles cuirassées de bottes jusqu'aux épaules. C'est une description absolument magistrale. Et voilà. Et moi, je me dis souvent, on demande aux écrivains comment ils écrivent, avec quel stylo, chez eux, pas chez eux. Ce fétichisme ne m'intéresse pas. Mais je trouve, demander à des écrivains quel est leur surmoi littéraire, quel écrivain idéal ils ont en tête quand ils écrivent, je trouve que ça, c'est une belle question que j'aimerais peut-être vous poser à vous d'ailleurs. Mais enfin, pour Salter, on sait qu'il écrit un peu sous le regard d'Isaac Babel. Et d'ailleurs, j'ai appris en lisant un livre d'entretien que vous avez lu aussi, Frédéric Becbédé, « Tout ce qui n'est pas écrit disparaît », qu'il y a une photo de Isaac Babel dans l'escalier qui monte à son bureau de sa maison des Hamptons. Donc,
oui, en fait, il dit que chaque page doit être comme un poème. Et c'est de la prose, mais c'est aussi de la poésie. Et quand on lit Salter, en fait, on est frappé par ça. C'est-à-dire que on se dit, oh, ce paragraphe est d'une beauté. Enfin, et ce paragraphe en lui-même serait un poème, mais c'est un roman quand même. C'est-à-dire, il y a quand même des personnages et on s'attache aux personnages et on a envie de savoir ce qui va leur arriver. Mais voilà, chaque page est cristalline et d'une grande pureté. Vous dites Babel, mais il était aussi très admiratif des souvenirs de Nabokov, Autre rivage, des nouvelles de Tchekhov. Et pour revenir chez nous, il aimait beaucoup Colette. Et je trouve qu'il y a aussi beaucoup de similitudes avec Colette et une écriture très féminine, en fait, très, qui s'attarde sur la cuisine. Enfin, attention, je ne veux pas déraper, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de sensoriel, voilà, de très sensoriel dans la prose de James Salter.
Et il écrit peut-être de cette façon à cause de son passage à Hollywood. C'est exactement le contraire des scénarios, des films qu'il a tournés. C'est quelque chose qui... D'ailleurs, on a adapté très très peu même de ses nouvelles à l'écran. Et il a un point commun avec Frédéric, c'est qu'il a réalisé un film avec Charlotte Rampling.
Ah oui, que j'ai jamais vu, qui s'appelle Three.
Qui est absolument introuvable, même sur Amazon. Et il a tout de suite appris que la littérature et le roman, c'était le contraire du cinéma.
Mais juste avant d'arriver au roman, vous ne trouvez pas quand même que dans l'autobiographie, il y a un peu une baisse d'intensité quand il décrit sa vie à Hollywood, les gens qu'il rencontre, etc. Polanski, Redford. Là, on a quand même le sentiment de tomber un peu dans le name-dropping. Ouais. Ce qu'on apprend de Redford n'est pas très intéressant, de Polanski non plus. Alors la question est de savoir si Polanski est vraiment un homme intéressant, mais ce serait un tout autre débat. Mais voilà, j'ai été heureux simplement d'une ligne sur Fellini, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer deux fois pour un entretien pour la revue dont je m'occupais, Le Messager Européen, et donc j'étais ému. Et Fellini était un homme en bras de chemise qui ressemblait à ses photos, cheveux et vêtements en bataille et du poil noir qui lui poussait dans les oreilles comme un oncle adorable. Donc comme un oncle adorable est délicieux, mais je trouve que c'est pas tout à fait à la hauteur, quoi. Ni du début, ni évidemment d'un bonheur parfait.
Il n'a pas aimé du tout le cinéma, il le faisait d'une manière alimentaire, il n'était pas très heureux, je crois, c'est à la fois d'écrire des scénarios et de son film. Et donc ça se ressent peut-être tout simplement pour cette raison-là, c'est que quand il écrit ces souvenirs-là, il est beaucoup moins fasciné, beaucoup moins nostalgique et féerique que quand il parle d'autres moments de sa
vie. Il est assez honnête en même temps, parce qu'il dit peut-être que si j'avais eu du succès au cinéma, je ne serais pas comme ça.
Alors, venons-en à un bonheur parfait. Au moment de sa réédition, Éric Nehoff, vous avez dit « Un bonheur parfait est un des plus beaux romans du monde. C'est un livre qu'on a lu et relu, dont les pages sont cornées, un volume épais comme un millefeuille, qu'on a ouvert des dizaines de fois. » Et vous dites, il y a des gens qui ont de la chance, ceux qui ne l'ont pas encore lu. Pourquoi ? Comment définiriez-vous
C'est drôle que vous ayez parlé de Roland Barthes au début, parce que je me souviens, je crois que c'est dans le plaisir du texte, il explique que dans Proust, ce qui est épatant, c'est qu'on ne saute jamais les mêmes passages. Et dans Un bonheur parfait, on a beau le relire 36 fois, on ne se souvient jamais des mêmes passages. Moi, la première fois que je l'ai lu, ce qui m'avait frappé, c'était le chapitre où le héros va acheter des chemises dans une boutique de New York. Et c'est tout un chapitre très long avec le vendeur qui est plein de poésie et de précision comme à l'armée. Et j'avais été frappé par ça. Et là, ce qui m'a frappé, c'est la mélancolie du livre. Ah oui. Une tristesse presque farouche qu'on voit monter petit à petit. Et c'est vraiment de la poésie. Hein. Il a un style éblouissant. Il n'y a pas une phrase dont on se dit « celle-là est banale, il aurait pu l'enlever ou il faudrait la changer ». Sans remonter à Isaac Babel, moi je trouve que quand il parle de New York, des rencontres, ça me fait penser aux meilleures chansons de Simon et Garfunkel. Il y a une lumière, un rythme, une poésie du quotidien qui est vraiment formidable.
Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que le titre « Un bonheur parfait », qui est d'ailleurs, c'est un assez joli titre, qui est ironique, hein,
oui,
bien sûr.
Oui, je trouve qu'il convient bien au livre.
Oui, il convient bien au livre, parce qu'ils n'ont pas pu trouver une traduction juste au vrai titre original, qui est « Light Years ». Alors « Light Years », ça veut à la fois dire les années légères et les années lumière. Les années lumière, donc c'est aussi le temps qui a passé, mais ça peut être la vitesse, ça peut être aussi tout simplement le mot lumineux, quoi. Alors comment traduire tout ça? C'était pas possible, mais c'est vrai que ça donne une idée de ce que c'est que le projet. Il y a un couple, l'un est le monsieur est architecte et il y a sa femme. Ils sont dans une belle maison avec deux filles et on se dit que tout va bien, que c'est merveilleux. Alors on a des petits détails, des petites scénettes, et finalement, progressivement, on s'aperçoit que le temps va abîmer tout ça. Oui. Et le premier moment où moi je me suis dit, tiens, en fait, ça va pas si bien que ça. C'est sa femme qui trouve qu'un autre mec est très beau. Ça, c'est vrai que ça se fait pas normalement. C'est mauvais signe. Mais il y a tous les petits signes arrivent les uns après les autres. Et on se voilà. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que bon, il y a cette menace qui pèse sur le couple. Et en même temps, on se dit que ces gens-là, on aurait aimé les rencontrer, on a envie de les connaître.
Oui,
et ils ont l'air heureux pour de vrai.
En plus, oui, ils méritent notre affection. C'est pas du tout ironique ou méchant, le portrait d'une espèce de bourgeoisie de banlieue, desperate housewife. Non, c'est vrai.
Non.
Ils ont quelque chose.
Oui, parce qu'ils sont sympathiques, drôles, cultivés et apparemment heureux. Là.
Ils ont tout pour être heureux.
Il y a tout un tas de passages avec les petites filles qui vont chercher des œufs de Pâques dans le jardin. Il y a les cadeaux à Noël, les repas avec les amis qui arrivent.
Qui boivent beaucoup.
Ah oui, il est très très fort pour ça.
Oui.
Et, d'ailleurs, ils boivent beaucoup, mais moi j'ai coché cette phrase. Ils avaient bu tout le vin, l'intérieur des bouteilles avait la couleur des nefs des cathédrales. C'est magnifique. Il y a des trucs comme ça partout.
Alors, lui-même dit dans son autobiographie qu'il s'agissait, avec Light Years, avec Un bonheur parfait, de résumer certaines attitudes envers la vie, parmi lesquelles le sentiment que le mariage dure trop longtemps.
Il me regarde fixement, là.
Et dans Tout ce qui n'est pas écrit disparaît, ce sont les galets usés de la vie conjugale, tout ce qui est beau, tout ce qui est quelconque, tout ce qui nourrit ou fane les choses. Donc, effectivement, c'est une gageure que de faire un roman sur l'usure, dès lors que celle-ci n'a pas de cause extérieure, dès lors que celle-ci ne vient de rien de palpable. Donc on est vraiment dans le roman de l'imperceptible, quoi. Certes, les liaisons viennent assez vite, mais c'est pas seulement ça.
Oui, il existe autre chose. Il y a un lien très fort, mais qui se délite, on ne sait pas pourquoi. Ça. Sans doute à cause du temps, tout bêtement.
Du temps. Et c'est un roman sur le temps.
Il y a ça aussi dans Tendre et la nuit. Hein. Ce sont deux romans très proches sur le délitement d'un couple et la dévastation qui ravage le mari. Oui,
surtout, dans les deux, dans ce cas-là, c'est vraiment le mari.
Et en fait, l'idée, c'est vraiment de sauver ce qui peut l'être. Mmh. Et donc, en page après page, d'essayer de regarder ce qu'il y avait de beau et d'essayer de saisir le bonheur fugace. Donc ça, je trouve que c'est ça qui est magnifique, parce que l'amour meurt, on le sait et on n'y peut rien, mais le fait de savoir ça n'empêche pas d'être heureux. Et c'est ça que je trouve, peut-être j'ai compris avec ce livre. Vous voyez, j'ai grandi avec ce livre. Alain me regarde vraiment d'un air consterné.
Non, parce qu'ils sont... Non, je ne vous regarde pas d'un air consterné, mais je n'ai aucun savoir sur cette question. Hein. J'ai peut-être une expérience, mais elle est forcément unique et singulière. Mais je me demande comment d'un livre comme Un bonheur parfait, on peut tirer une conclusion réconfortante. C'est un livre terrible.
Non, mais parce qu'ils sont heureux, parce qu'on voit des gens heureux. Et c'est compliqué.
Mais
c'est deux questions différentes, ça. De savoir si ça va durer ou pas ne devrait pas nous empêcher quand même de profiter de ces instants rares.
C'est beau moment. Alors, d'ailleurs, voici deux phrases que j'ai relevées ou deux paragraphes autour de cette question du bonheur. Et là, vraiment, on voit le styliste extraordinaire qu'il est. Il n'y a pas de plus grand bonheur que celui-ci. Les matins tranquilles, la lumière du fleuve, la perspective d'un week-end. Il menait une vie russe, une vie riche, où s'entremêlaient les événements, où le malheur, l'échec, la maladie de l'un d'eux les ébranlaient tous, une vie belle du dehors, chaude à l'intérieur comme un vêtement. C'était une magnifique description du bonheur conjugal, d'un certain bonheur conjugal.
C'est vrai que c'est très très compliqué d'écrire sur le bonheur, on est vite mièvre. Ce qui est miraculeux chez James Salter, c'est peut-être ça, c'est que c'est peut-être le seul écrivain que je connaisse capable d'écrire sur le bonheur sans être ridicule.
Parce que c'est un bonheur aussi sous la menace du malheur imminent et inéluctable.
Il dit, dans l'entretien que vous avez cité, tout ce qui n'est pas écrit disparaît, qui est un entretien à la Paris Review. Il faudrait qu'on parle de la Paris Review après, parce que c'est toute une bande d'écrivains américains qui ont baptisé leur revue comme ça, parce qu'ils nous aimaient. Ils aiment beaucoup la France et les écrivains français. Mais en tout cas... Lui, il dit, j'ai écrit ce livre, j'ai pensé à une phrase de Jean Renoir. Il avait trouvé cette phrase géniale, alors je la lis. Les seules choses importantes dans la vie sont les choses dont vous vous souvenez. Parce que c'est pas sur le bonheur, c'est sur le souvenir du bonheur. Et je pense que c'est le secret de ce livre. Oui, et là, pour le coup, peut-être c'est proustien.
L'attention aux objets. Il y a beaucoup de listes d'objets et aux détails. Le bonheur, c'est peut-être un couple qui, au restaurant... Ils se mettent ni face à face, ni côte à côte, mais à angle droit. Et rien que ça, on voit qu'à ce moment-là, ils s'aiment beaucoup. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un détail incroyable. À la page 253, c'est le début du chapitre, il est écrit « Ils divorcèrent à l'automne.
Oui, je regrette
que cela se soit passé ainsi.
Oui. » Extraordinaire, oui, j'ai remarqué ça.
Qui jette un trouble, qui est-ce,
oui, c'est raconté par quelqu'un d'autre.
Tristesse du narrateur, tout d'un coup, qui apparaît une seule fois.
Et suit une scène magnifique où, le soir du divorce, ils écoutent Mendelssohn en buvant de l'ouzo. Et on voit là que la mélancolie terrible qui s'abat sur tout ça.
Mais ça, c'est un truc qu'il a piqué à Fitzgerald. Parce que dans Gatsby, c'est raconté par quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est aussi...
Oui, mais dans Gatsby, le narrateur est un des personnages. C'est un jeu qui surgit du ciel, quoi, du ciel.
Alors,
des idées.
Une autre citation sur ce bonheur, sur ce bonheur si fragile. Et là, je pense à un auteur qui vous est cher, Frédéric Bébété. L'été et le midi des familles unies, c'est l'heure silencieuse quand on n'entend que les cris des oiseaux de mer. Les volets sont fermés, les voix murmurent, de temps en temps, le tintement d'une fourchette. Et ça m'a fait un peu penser, peut-être à tort, à Paul-Jean Toulet. Je trouve qu'il y a quelque chose là. Il y a une espèce de...
De fragilité. De
fragilité et un art extraordinaire de saisir la beauté du moment. Quoi.
Oui, vous savez, c'est votre titre qui m'intrigue. Parce que c'est compliqué d'expliquer le charme.
Mais oui.
Qu'est-ce que c'est que le charme? Pourquoi certains livres, on a envie de les serrer contre soi, on a envie de les garder sur sa table de chevet, on a envie de les relire souvent? Et c'est un mystère. C'est très compliqué d'expliquer pourquoi ces phrases-là, on a envie de les noter. On a tous nos livres devant nous et on a envie de lire chacun des citations. Il y avait le début du chapitre 5. La vie, c'est le temps qu'il fait, les repas, des déjeuners sur une nappe à carreaux bleus où quelqu'un a renversé du sel. Pourquoi l'idée d'une nappe à carreaux bleus sur lesquels quelqu'un a renversé du sel, ce serait un résumé du bonheur ou de la vie réussie? Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, c'est peut-être parce que quelqu'un n'a pas fait très attention, donc il y a de la vie, il y a du monde... Il y a du sel renversé. J'essaie de faire une explication de texte, vous savez, comme à l'école.
Mais c'est difficile, je suis d'accord avec vous, c'est très difficile.
Pourquoi cette salière renversée, elle nous réjouit?
Il est très fort pour décrire les femmes aussi. Il y a une sensualité, un érotisme. Là. Il y en a une qui apparaît assez vite. Elle était de ces femmes qui, lorsqu'on les aperçoit pour la première fois, transforment l'univers tout entier. C'est presque la qualité du roman, ça. C'est le charme, c'est indescriptible. Lui, c'est très bien... En deux, trois lignes, décrire la beauté d'une femme. Il y a une femme un peu plus âgée à un moment donné. Sa femme vivait ses dernières années de jeunesse. Elle était comme un bon dîner laissé sur la table pendant la nuit. Oui. Elle était somptueuse, mais les invités étaient partis.
Il ne s'agit pas de l'héroïne, d'ailleurs, une autre femme qu'il rencontre. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, peut-être aussi, cela vient-il d'un choix narratif, c'est-à-dire, c'est un homme qui n'a pas décidé de tout modeler autour d'une histoire précise. Les épisodes, quand même, ont chacun une certaine autonomie. Ils valent pour eux-mêmes. Ce sont des épisodes, justement, au sens de la poétique d'Aristote, dont Kundera nous dit dans l'Immortalité qu'il n'aimait pas les épisodes, précisément parce qu'ils n'étaient la conséquence de rien, ils n'annonçaient rien. Mais il y a cette liberté qui est un peu la liberté de la vie chez Salter. C'est, voilà, il y a des événements qu'il s'agit de décrire, des gens qu'il rencontre. Vous avez parlé de ce tailleur. Mais pourquoi ce tailleur? Au début, on se dit, bah, là, il faut que je retienne le tailleur, parce qu'il va revenir, il va être l'amant de la femme, il va lui prêter de l'argent. Eh bien non, c'est l'épisode du tailleur. Et donc, il y a quelque chose comme ça. Les vies ne sont pas construites autour d'un sens qui serait celui choisi par le héros ou qui serait le destin. C'est le désordre même de la vie, le décousu de la vie.
Oui, puis c'est nous-mêmes qui comblons les trous. Voilà. Entre le tailleur, le dîner, le voyage à Paris, on imagine ce qui s'est passé, ce qui est arrivé entre eux ou pas. Il y a une accélération à la fin sur les années qui passent très très vite, exactement comme dans Tendre et la nuit. Et une tristesse énorme, surtout chez l'homme. Il est fort, vraiment.
Et au départ, d'après ce qu'il dit dans cet entretien, il voulait l'intituler Nedra et Viri, donc les noms des personnages. Et puis il a choisi Light Years. Je pense qu'aussi, il est très influencé par la peinture. Je pense que c'est un peintre. Tu parlais de Simon & Garfunkel. Moi, j'ai pensé tout le temps à Hopper. Je pense à des tableaux d'Hopper tout le temps.
Et Andrew Wyeth aussi, un peu, là.
Ces gens...
Et lui-même
voilà, qu'on observe de l'extérieur, et puis qui ont l'air de un peu s'ennuyer, mais un peu être bien quand même.
Un peu être bien. Et lui pensait, il le dit dans cet entretien, à Bonnard.
Oui.
La couverture, ça c'est l'intervieweur, de l'édition North Point, montre une œuvre de Bonnard, Le Petit Déjeuner. Ce tableau semble capturer l'atmosphère du roman. J'écris parfois en pensant à certains peintres, répond Salter, et j'ai écrit Un bonheur parfait en pensant à Bonnard depuis le début. Mais il est vrai, il y a quelque chose de très très pictural dans ce qu'il fait. Quoi.
Oui, et ça peut déranger au début parce que c'est pas évident d'entrer tout de suite. C'est vrai.
On est un peu perdu. Oui. Rien que le nom des personnages, Viri et Nedra, on se dit mais qui est l'homme, qui est la femme?
Oui, ça c'est terrible. Pourtant Vire, Vire, c'est l'homme. Mais moi aussi j'ai eu des difficultés avec ces deux noms. Mais
c'est pas un romancier qui essaie de vous attraper par le col et de vous emmener jusqu'à la dernière page. Mais en même temps, on tourne toutes les pages avec avidité et il y a presque du suspense à la fin.
Oui,
c'est un thriller amoureux en quelque sorte.
À la toute fin, oui. Mais en même temps, oui, c'est un peintre, mais Il y a des phrases, un peu comme dans Une vie à brûler, concernant le père, qui ont quelque chose d'implacable sur le mariage tout de suite. Et d'ailleurs, la plus lucide sur le mariage, c'est Nedra. C'est quand même, de ce point de vue-là, me semble-t-il, un roman paradoxal. Il a un métier, il est architecte, il a des rêves de grandeur, certes, qu'il ne comblera jamais. Elle vit à la maison, elle vit pour la famille et pour les enfants. Mais celle qui fait le diagnostic le plus lucide, ce mariage ne tiendra pas, c'est très vite, c'est elle, même s'il est le premier à avoir une liaison. Celle qui s'en va, c'est elle. Celle qui choisit la liberté et le partenaire qui est dévasté par le divorce, c'est Viry. C'est l'homme. Et elle, elle commence, et à cette phrase, il y a des choses que j'aime dans le mariage. Par exemple, son côté familier, c'est comme un tatouage. Tu en voulais un, tu l'as eu, et à présent, il est gravé dans ta peau pour toujours. C'est à peine, si tu en as encore conscience, je dois être très conformiste. Et en même temps, elle parle très vite de la stupidité de ce genre de vie, l'ennui, les disputes. Et 40 pages plus loin, c'est elle qui fait le diagnostic définitif. Elle ne s'intéressait plus au mariage, il n'y avait rien d'autre à dire, c'était une prison. Le mariage m'est devenu indifférent, j'en ai assez des couples heureux, je ne crois pas à leur bonheur, ces gens se racontent des histoires. Viry et moi sommes amis, de bons amis, et je pense que nous le serons toujours, mais le reste est mort. Nous le savons tous les deux, ce n'est pas la peine de faire semblant, notre couple est pomponné comme un cadavre, mais il est déjà pourri. C'est terrible. Ouais. Et c'est elle qui le dit. Ouais. C'est elle. Donc c'est elle qui vraiment, je ne sais pas, elle est l'homme de l'histoire, un peu, non ?
Elle est le moteur, en tout cas, c'est elle qui déclenche. Oui. Mais lui est complètement ravagé par ça. Quand ils sont séparés, il y a cette phrase, il était soudain coupé de sa propre vie, un espace fatal s'était créé, comme celui qui sépare un paquebot du quai, devenu brusquement trop large pour traverser. Et on se dit, c'est exactement ça. On voit, ça ne se réparera jamais. Et le cœur du héros est brisé. Et c'est d'autant plus déchirant qu'il s'est tellement bien raconté une famille quand tout marche bien, les histoires que le père raconte à ses petites filles le soir, le poney dans le champ qui a disparu. Oui. On voit tous ces détails, le poney qui vieillit, la petite voisine unijambiste qui fait du patin à glace sur la rivière gelée, l'accident de cheval d'une autre voisine. Et on voit tout ce grouillement de la vie qui s'estompe petit à petit et qui reste malgré tout dans la tête et du lecteur et du héros.
Et du héros, oui.
Oui, moi je trouve que c'est un roman, en fait, qui est écrit comme une nouvelle. C'est ça qui est très surprenant avec ce livre.
Pourquoi ?
Parce que quand on écrit une nouvelle, il faut concentrer les choses, il faut mettre beaucoup d'images, j'imagine. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut soigner chaque détail précisément. Et peut-être que quelquefois, quand on écrit un roman, on écrit un peu comme un fleuve. Vous voyez, on sait qu'on a de l'ampleur. Et lui, pas du tout. En fait, c'est ça le paradoxe de Salter. Ce sont des longues nouvelles, c'est une longue nouvelle, voilà.
Oui, ce qui nous ramène à Babel, hein.
Oui.
Ça prouve bien que Babel
ou à Tchekhov
et Salinière, et à Tchekhov, oui.
La maison aussi joue un rôle énorme dedans, là. Cette maison au bord de l'Hudson qui s'abîme petit à petit, où plus personne ne va vraiment. On la voit se détériorer, et quand il y retourne, les objets sont toujours là, mais la vie a disparu, et c'est déchirant.
C'est toujours lui qui veut la garder, c'est lui l'homme de la maison. Même sur les enfants, il y a des choses extraordinaires sur les enfants, sur l'amour des enfants, mais c'est l'amour tel que Viry l'éprouve. C'est cette espèce d'un amour tout à fait unique. Les enfants sont notre récolte, nos champs, notre terre. Ce sont des oiseaux lâchés dans l'obscurité, des erreurs renouvelées. Néanmoins, ils sont la seule source où nous pouvons tirer une vie plus réussie, plus intelligente que la nôtre. D'une certaine façon, ils feront un pas de plus, ils apercevront le sommet. Les enfants doivent mourir, c'est une idée que nous ne pouvons accepter. Mais ça, c'est Viry qui ressent les choses ainsi. Sans doute Nedra aussi, mais c'est extraordinaire de voir que même... D'abord, il est porteur de cette nostalgie du bonheur conjugal. Il est porteur
mais
de cet amour
moment
des
il
enfants.
Le vit. C'est ça qui est curieux. C'est le bonheur est là, mais il sait que ça va passer. Il l'imagine déjà derrière lui. Mais j'ai peur qu'on en donne une image un peu trop sérieuse et sinistre, parce qu'il y a des dialogues vraiment crépitants et très mystérieux aussi, et des histoires drôles. Il y a sans arrêt des histoires qu'on raconte aux enfants. Il y a l'histoire des deux ivrognes dans un ascenseur. Et il les amène de façon très, très habile.
Il y a une phrase, moi, qui m'a fait marrer, justement, dans la scène avec le monsieur, le tailleur, là. Il dit « Une chemise mal faite, c'est comme une jolie fille célibataire qui tombe enceinte. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est ennuyeux. » J'ai l'impression que c'est aussi un livre sur un phénomène nouveau, qui est qu'autrefois, ses parents, les parents et les grands-parents, ils seraient restés ensemble. Et là, ils se séparent. Et je pense que c'est peut-être aussi un livre sur cette question-là, sur le fait que les gens ne restent plus ensemble. Quand ça va mal, on ne fait plus l'effort de rester ensemble, même s'il y a des enfants, même s'il y a une maison.
Ça se passe dans les années 70, je crois.
Finalement, le sujet de ce livre, c'est ça. Écrit par quelqu'un, encore une fois, obsédé par l'honneur, par les valeurs, par la grandeur, mais qui voit s'effondrer tout ça et qui n'y peut rien. Et je pense que ça, c'est peut-être ce qu'il y a de nouveau dans le livre. Et vous aimez beaucoup Philip Roth, je sais, mais il a beaucoup parlé du même sujet. Mais jamais avec autant de tendresse.
Non, d'ailleurs, dans Professeur de désir, il y a quelque chose de cet ordre. Le héros, David Kepesh, est fou amoureux de Claire. Il voit que finalement, cela va s'éteindre. Il s'en rend compte. Et donc, il a compris que lui allait rompre. Mais il rompt même avant qu'il puisse atteindre l'épanouissement du bonheur conjugal. Et de ce qui fait qu'effectivement, il n'a jamais décrit la chose, la longue usure,
et
comme le fait James
Hunter. Il y a rarement
James
des enfants dans les romans de Philip Roth, sauf dans Pastorale américaine. Il y a le couple, mais il n'y a pas d'enfants qui sont là comme témoins et victimes, peut-être aussi.
Et alors, une blague, puisque c'est vrai, il y a des blagues. Tout d'un coup, il y a un personnage qui dit à l'autre, tu connais l'histoire du cannibale? Non. Il dit à sa mère, maman, j'aime pas les missionnaires, et elle répond, eh bien, ne mange que les légumes, mon chéri. Donc, c'est même pas des blagues tellement, chic.
Il faudrait aussi citer les passages érotiques qui sont très, très réussis. Hein. Très, très flous, et pas graveleux du tout, mais d'une sensualité terrible.
Ça, il faut lire All That Is, que j'ai lu cet été, pour la qualité des dialogues. C'est la vie érotique, la vie amoureuse d'un homme, et avec des passages érotiques absolument magnifiques. Mais là, pour en revenir à Viry, il accumule quand même les malheurs. Parce qu'il trompe Nedra très vite. Il dit, elle était devenue sa plus proche parente. Et donc ça, c'est quand même le destin de nombreux couples. Terrible destin incestueux du bonheur conjugal. La triste gémellité. Il rencontre une femme, Kaya, qui travaille, je crois, dans son agence. C'est une histoire érotique extraordinaire. Elle le quitte à un moment donné. Il va chez elle tellement il veut la voir. Elle est avec quelqu'un d'autre. Elle rompt aussi brutalement qu'elle s'est donnée à lui. Et il ne se remettra jamais de cette rupture, puisqu'à un moment donné, il va voir Solness, le constructeur, la pièce d'Ibsen, très longtemps après. Et l'un des personnages, d'ailleurs annexe de cette pièce, s'appelle Kaya. Et il est bouleversé par cela. Donc finalement, c'est un homme qui accumule les malheurs.
Et un moment après, il est avec sa femme dans un restaurant. Il aperçoit cette Kaya et il est complètement bouleversé, mais il ne veut pas que sa femme devine que c'est sa maîtresse, que c'était sa maîtresse, et il comprend qu'elle s'en est aperçue. C'est une scène magnifique, et on ne sait pas comment c'est fait. Et il a un don pour ça, on peut lire 10 fois, et c'est toujours aussi mystérieux et miraculeux ce qu'il fait.
Moi, je crois qu'il s'inspirait... Alors, je ne veux pas dire que ça rend les choses plus faciles, mais il s'inspirait de gens réels.
Oui.
Il l'a dit, et c'était des gens qu'il avait connus, sont des gens qui ont vraiment
existé. C'était ses voisins, qui n'avaient pas encore divorcé à l'époque, qui se sont fâchés avec lui quand le livre est sorti.
Donc, il ne s'est pas inspiré de sa propre vie, parce que lui-même a eu une première...
Certainement.
Mais la maison, les objets qui sont dans la salle de bain, les voisins, à la sortie du livre, ont dit, mais c'est nous, c'est notre maison, c'est notre vie.
Et puis on reconnaît à un moment donné, parmi ses amis, ce Robert Phelps, qui l'a beaucoup aimé, parce que l'un des personnages est atteint de la même maladie que lui. Donc effectivement, on voit que c'est pas un homme complètement d'imagination, si tant est que l'imagination pure existe.
C'est peut-être pour ça qu'il y a cette apparition mystérieuse de la première personne du singulier, c'est qu'en fait, il observe des gens.
Il dit,
j'aimerais qu'ils restent ensemble.
Je regrette ce qui est arrivé. Et Viry n'est quand même pas au bout de ses peines, parce qu'il faut dire, le moment où ça devient un thriller amoureux, c'est qu'il va en Italie, et en Italie, une femme totalement, je sais pas, il rencontre une espèce d'Emma Bovary qui jette son grappin sur lui, qui a décidé que c'était son grand amour. Il se dit, mais pourquoi pas? Et c'est l'horreur très vite.
Non, oui, oui, il a peur du coup. L'amour de cette fille est tellement immense pour lui qu'il est dépassé par les événements.
Et il n'aime pas tellement l'Italie d'ailleurs. Il n'en dit pas beaucoup.
Et il n'est pas si amoureux que ça de cette fille-là. Non. Et il a toujours sa femme en tête.
Il a toujours sa femme en tête, donc il revient en Amérique. Et donc c'est l'ultime échec de son existence jusqu'à la fin. Alors bon, peu importe, on peut raconter.
Si.
Mais je n'ai pas. Ça n'a aucune importance, parce qu'encore une fois, je trouve que c'est
dommage.
Bon, alors je ne dis pas. Alors, d'accord, mais en plus, je suis pas sûr de l'avoir comprise. Je voulais que vous m'éclairiez. Vous m'éclairiez et vous allez m'éclairer.
Non, il y a une chose bizarre aussi, c'est que dans une de ses nouvelles là, du recueil American Express, il avait cette phrase : les femmes tombent amoureuses quand elles commencent à vous connaître. Pour les hommes, c'est exactement le contraire. Quand ils finissent par vous connaître, ils sont prêts à vous quitter. Et pourtant, le roman est la preuve inverse.
Oui, qu'on ne s'en remet pas.
Donc, ça veut dire que l'amour, personne ne saura jamais ce que c'est, même quelqu'un d'aussi doué que James Salter, mais ça lui permet d'écrire des nouvelles et un roman aussi prodigieux.
Alors, vous avez apporté un autre livre, Eric Neuhoff, dont je connaissais l'existence, mais que je n'avais jamais vu, La vie conjugale. Il est sous-jacent.
Oui, qu'il a coécrit avec sa femme.
C'est le livre qu'il a coécrit avec sa femme. Et qui s'intitule « Life is Meals ». Alors, dites-en quelque chose.
« Life is Meals », tout est dans le titre. C'est « La vie, ce sont des repas ». C'est une sorte d'éphéméride sur une année, avec des menus, des conseils pour recevoir ses amis, ce qu'on doit boire, comment présenter la table, où faire ses courses, quels alcools boire quand on prend tel ou tel fruit, quelle serviette choisir, le fromage. Il a une culture encyclopédique et ça fait presque comme sur un DVD, pas les scènes coupées, mais le making-of du roman. On voit à quel point la vie autour d'une table, la cuisine, les courses, ont quelque chose de romanesque pour lui.
Donc c'est un livre qui mérite d'être lu.
Oui, si on aime James Salter et la gourmandise et surtout pour voir comment un Américain raffiné et cultivé appréhende la nourriture française ou pas.
Est-ce que ça voudrait dire que là il y a un peu, enfin il y a implicitement l'image d'un vrai bonheur, d'un bonheur qui aurait tenu le coup contre l'usure.
Apparemment. Parce qu'il est toujours marié à la même femme depuis des années et la preuve que ça doit marcher à peu près, c'est qu'ils ont signé le livre ensemble.
Il faut parler aussi de cette bande d'écrivains qui sont dans des maisons près de New York. Je crois que c'est vers Long Island, c'est par là. Il y a donc ce monsieur qui s'appelle George Plimpton, qui était le fondateur de la Paris Review. Ouais. Et c'est ce qu'il décrit aussi dans Un bonheur parfait, c'est ces intellos un peu bon vivant, qui aiment le vin, qui sont hédonistes, où il y a des livres partout chez eux, et il y a des bouteilles de vin, et il y a des jolies femmes, et il y a des jardins, et il y a des enfants. Et ce monde-là, m'attire
énormément. James McInerney aussi est un peu leur
descendant. Comme on a un point commun, Finkielkraut et moi, c'est d'être inquiet sur la situation de la littérature et la disparition du livre sur papier.
Oui, c'est vrai.
Nous avons cette inquiétude commune. Oui, je voudrais vous lire ce que dit James Salter quand on lui pose la question la pire du monde. Pourquoi écrivez-vous?
Oui.
Alors je vais vous le lire, là, maintenant. Attendez.
Bien sûr, allez-y.
La réponse. Parce que tout ça va disparaître. La seule chose qui restera, ce sera la prose et les poèmes, les livres, ce qui est écrit, couché sur le papier. L'homme a la chance d'avoir inventé le livre. Sans ça, le passé disparaîtrait complètement et nous serions laissés sans rien. Nous serions nus sur terre.
Le livre, donc pas le support papier,
Il n'est peut-être pas autant, pas aussi fétichiste que nous, mais quand il parle du livre, je doute qu'il s'agisse d'un Kindle.
Ouais. Oui. Non, ça doit être des livres qu'on voit dans une bibliothèque pour décrypter la biographie des occupants. Un iPad, il peut y avoir 1000 titres dedans, ça n'évoque rien quand on entend.
Tandis que là, il y a la photo. C'est intéressant aussi de voir les photos qui ornent les bureaux des écrivains. J'ai été, pour l'anniversaire de Philip Roth, son 80e anniversaire à New York, dans son studio, il y a une photo de Bello et une photo de Primo Levi. Et effectivement, ça signifie beaucoup de choses.
Bello, qui était un grand ami de Salter.
De Salter. Et là, c'est la photo de...
Et d'ailleurs, Saul Bellow est dans un cocktail dans le livre.
Oui, oui.
On voit un moment, il y a Saul Bellow. Ah bon, il est là? Non, il est parti. Il apparaît. Il est en guest star dans Un bonheur parfait.
Ah oui, c'est vrai.
Un caméo, comme au cinéma.
Mais alors, en même temps, il y a cette phrase dans Un bonheur parfait, justement. Le savoir ne vous protège pas. La vie méprise le savoir. Elle le force à faire antichambre, à attendre dehors. La passion, l'énergie, les mensonges, voilà ce que la vie admire. Néanmoins, on est capable de supporter beaucoup de choses si l'humanité entière vous regarde. Les martyrs sont là pour le prouver. Nous vivons dans l'attention des autres. Et puis, ce que j'aime aussi dans ce livre, pour finir, c'est que, quand bien même il s'agit de l'usure, il nous dit que, dans un couple, on n'est jamais tout à fait à égalité.
Il compare les relations hommes et femmes avec la rencontre d'une pierre et d'un ciseau. Il y en a toujours un des deux qui doit briser l'autre.
Voilà. Et l'un des personnages dit à Nedra, toi et Viri, n'importe quel couple qui se sépare, c'est comme une bûche qu'on fend. Les morceaux ne sont pas égaux. L'un d'eux contient le cœur. C'est impressionnant. L'un d'eux contient le cœur. Il semblerait que c'est Viri, là, en l'occurrence.
C'est un grand romantique, Finkielkraut.
Ouais. Écoutez, j'ai du mal à conclure là-dessus. Trouvez une autre phrase.
C'est vrai, c'est un livre qui vous a ému, mais qui vous a fait souffrir aussi.
Eh oui, enfin souffrir, n'exagérons rien, mais effectivement, c'est pas une. Il y a des moments de bonheur, il y a des très belles descriptions du bonheur. Ce n'est pas un livre heureux, et il me semble, si je les ai bien compris, que les dernières pages le prouvent. Mais nous n'en dirons pas plus. Bon, en tout cas, donc je renvoie à ces deux reparutions, rééditions, Un bonheur parfait, Une vie à brûler, aux éditions de l'Olivier. Et il est question d'Une vie à brûler dans votre palmarès.
Oui, c'est vrai.
Qui avait été édité chez Grasset. Il n'a que le numéro 72. Oui, je ne chipoterai pas.
Je devrais.
Ni sur le numéro 1.
Je corrigerai la prochaine édition. Il montera beaucoup plus haut.
Voilà, il montera plus haut. Et vous mettrez Babel.
Voilà. C'est promis.
Ah oui, mais d'ailleurs, donc, je signale en plus, on en a parlé, James Salter, Tout ce qui n'est pas écrit disparaît, également aux éditions de l'Olivier, L'entretien donné à la Paris Review.
Et signaler aussi Un sport et un passe-temps.
Oui. Un sport et un passe-temps que je n'ai pas lu.
Qui est le très beau, c'est une histoire aussi, je vous conseille, puisque vous avez l'air d'avoir apprécié les passages érotiques. Bien alors, dans Un sport et un passe-temps, c'est très très sensuel.
Isaac Babel également, les œuvres complètes, rééditées au bruit du temps, dans une très belle traduction de Sophie Bénèche. Et je m'empresse de dire qu'Un bonheur parfait a été très bien traduit par Lisa Rosenbaum et Anne Rabinovitch. Et pour ce qui est d'Une vie à brûler, c'est une belle traduction également, une très belle traduction de Philippe Garnier. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable 1 an et réécoutable 1000 jours. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et de Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Stéphane Desmonts. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.